Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de la crise du logement. C'est un sujet qui occupe les médias et qui me paraît être d'ailleurs au cœur de ce que doit être cette émission qui, comme vous le savez, est intitulée « Où vivrons-nous demain ?». Je le répète encore une fois, il s'agit d'un propos un peu ironique parce que, en fait, on peut dire le cœur de cette émission, de savoir où nous vivons aujourd'hui et la compréhension du monde actuel me paraît une tâche beaucoup plus importante que de faire des utopies qui n'ont aucune chance pour la plupart de se réaliser. Alors c'est cette connaissance du présent en s'appuyant bien sûr sur le passé, les expériences du passé qui nous permettraient de mieux le connaître. Alors pour revenir à cette crise du logement, c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité, hélas, et qui a des conséquences importantes pour la vie de nos concitoyens et, chose plus grave, pour la vie de nos concitoyens à venir, puisque le problème du logement, c'est un problème qui demande du temps et qu'une crise de logement ne se résout pas par la simple importation, comme par exemple on a pu résoudre une pénurie, celle des masques pendant le Covid, en les important de Chine ou d'ailleurs. Donc là, il s'agit d'un problème structurel beaucoup plus grave et on peut d'abord essayer de se rappeler quelles sont les raisons de cette pénurie et essayer de trouver, et c'est le but du propos d'aujourd'hui, d'essayer de trouver des solutions qui seront opératives rapidement et qui ne demandent pas, encore une fois, des grandes utopies. Alors, petit rappel, effectivement, c'est, je pense, à la politique, on peut dire, réglementaire, qui a été coercitive à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la construction elle-même, alors il y a eu toujours pareil avec des intentions vertueuses, les fameuses passoires thermiques, j'ai déjà parlé de l'abus de ce terme, et probablement aussi, même si les intentions sont parfaite, on est arrivé à des réglementations qui sont extrêmement coûteuses et aussi qui, évidemment, augmentent le coût et pénalisent donc les projets à venir. Mais la chose la plus grave, c'est surtout le manque de terrain constructible, ce qu'on appelle le foncier, qui fait que tout cela a été créé dans un pays aussi vaste que le nôtre, parce qu'il est vaste et peu construit, malgré tout ce que l'on peut raconter, ce pays qui est le nôtre est considéré comme s'il s'agissait de Monaco, par exemple, avec ses 35 hectares, qui est obligé de monter ou d'aller faire des presqu'îles sur la Méditerranée pour sa croissance. Donc là, nous avons une population qui s'est accrue d'une manière considérable sur le dernier demi-siècle, et il y a effectivement les logements qui ont suivi cela, mais actuellement, on se trouve devant un nombre de, on peut dire, de mal logés, pas de sans-abri, qui soit très important, mais en tout cas, un nombre de mal logés important, et surtout, chose plus grave, les jeunes générations vont avoir de plus en plus de mal à se loger parce que les coûts de construction ont augmenté, pour les différentes raisons de pénurie des terrains et aussi de l'augmentation des coûts de construction dus à des réglementations diverses et comme je vous disais, coercitives et aussi avec des implications et des retentissements financiers importants. Donc, on se trouve devant une situation difficile. Alors, la question aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions. Donc, je pense que la première, ça serait de trouver les lieux où on peut construire. Alors, les solutions qui sont données devant cette pénurie artificielle, alors je rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit des zéro artificialisation, ça veut dire que on n'a pas le droit d'utiliser les terrains parce qu'on prendrait ces terrains à l'agriculture. Alors, il est vrai qu'effectivement, il est un peu absurde de prendre des terrains agricoles qui sont productifs et de les utiliser pour de la construction, attendu qu'on pourrait avoir peut-être d'autres choix. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on ne parle dans ce cas-là uniquement que du logement. Alors, il faut rappeler que le logement ne représente pas l'essentiel de la construction. Ça représente même moins de la moitié de tout ce qui se construit. Rappelons qu'il se construit des bâtiments d'équipements divers, des scolaires, des bâtiments de commerce, des bâtiments de bureaux, des bâtiments industriels. Et la solution qui est proposée, c'est d'une part là pour trouver des terrains, c'est-à-dire de reconquérir les friches industrielles. Alors là aussi, je pense qu'on rêve quand on parle de cela, les friches industrielles. D'abord, ce mot est assez impropre. Bon, il s'agit des terrains qui ont été abandonnés par des industries qui se sont d'ailleurs déplacées, qui sont souvent des terrains urbains, mais ces terrains, c'est une situation qui s'est passé, on peut dire, il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années, peut-être au maximum, mais que ces terrains, il n'en reste plus beaucoup. Alors regardez par exemple à Toulouse, c'est la cartoucherie qui a fait l'objet d'une grande opération, les terrains d'AZF qui avaient été mis disponibles après la catastrophe, et aussi des terrains comme par exemple les magasins généraux, mais qui, il y a maintenant de 40 ans, ont fait l'objet d'opérations à tiroir de logement. Donc, on peut dire que ce phénomène s'est à peu près passé dans toutes les villes. Donc là, de penser qu'il y a une manne disponible est une erreur. Alors il y a aussi l'autre aspect, c'est de convertir les immeubles en logements. Alors là, on vous dit les bureaux. Alors effectivement, il se peut que dans de nombreuses villes, on ait construit un peu trop de bureaux. Effectivement, la transformation des immeubles de bureaux en logement est une chose possible. C'est pas forcément la solution miraculeuse, mais je crois qu'il ne s'agit pas non plus de solutions miracles. D'une part, par le coût de ces opérations, et puis aussi, c'est peut-être une vue à court terme, parce que même s'il y a à un moment donné eu une surproduction du bureau, il y a toujours une demande pour des bâtiments qui sont des bâtiments qui ne sont pas du logement, justement, qui peuvent être affectés au bureau. Il y a toujours besoin de lieux où on travaille. Et puis, il y a peut-être aussi on peut dire des transferts sur des bâtiments publics que les bureaux peuvent être, enfin, quand je parle de transfert, oui, de transfert de fonction dans des bâtiments relativement neutres, le logement n'étant pas forcément très adapté du fait que, je dis des évidences, il faut éclairer toutes les pièces, et ce qui n'est pas forcément le cas pour les immeubles dans lesquels on travaille. Et là, ça va être le point central du débat d'aujourd'hui. C'est de reconsidérer peut-être la la physionomie de la ville dans sa diversité. Donc aujourd'hui, on parle du logement et c'est toujours le propos central. Il faut densifier le logement contre l'étalement urbain. L'étalement urbain étant vu comme le pavillonnaire qui est nocif, on a entendu des ministres dire qu'il faut aller arrêter la maison individuelle, etc. Ça, c'est le grand débat. Alors, on propose donc de densifier. Alors, l'opération, par exemple, à Toulouse de la Cartoucherie, une opération très dense, est donc déclarée vertueuse. Vous me permettrez d'émettre quelques doutes sur ce type de vertu, parce que ce n'est pas une demande des populations. Alors, par contre, paradoxalement, la demande, on peut dire, des populations, et on le sait, pour du pavillon. Le pavillon, surtout, c'est surtout la possibilité, justement, de ne pas être dans une densification. La densification, c'est les vis-à-vis, c'est aussi le bruit, c'est des contraintes de copropriété, d'espace commun. Enfin, bon, ce n'est pas forcément la situation idéal, et je ne dis pas que il faille supprimer l'un par rapport à l'autre. Il faut les deux, mais il faut aussi écouter les désirs des gens. Et dans une démocratie, il faudrait que on réponde aux besoins des gens. Alors par contre, d'une manière surprenante, on ne parle pas du tout de densifier tout ce qui n'est pas logement et qui est effectivement une partie, comme je vous disais, supérieur en mètres carrés de ce qui se construit. Alors on appelle ça, par exemple, la France moche, c'est-à-dire ces zones industrielles, commerciales, aussi de bureaux. Enfin, ce n'est pas que de l'industrie, c'est du tertiaire. Et qui effectivement entoure à peu près la plupart des communes, les grandes villes, mais aussi les villes moyennes et aussi les petites communes. Alors, c'est vrai que le caractère de ces zones n'a pas été la plupart du temps pensé, et on n'a pas beaucoup d'opérations exemplaires dans ce pays, pour différentes raisons, mais certes, pour des raisons, je pense, idéologique, certainement. Par exemple, les architectes ont un grand dédain pour travailler dans ces zones-là. On considère ça avec le vilain mot de architecture alimentaire, c'est-à-dire qu'on va signer des permis on peut dire, sans travailler beaucoup et sans réfléchir beaucoup. Et dans les écoles d'architecture, par exemple, c'est un sujet complètement ignoré. Évidemment, ce dont on parle, ce sont des bâtiments prestigieux, des musées, ou alors, effectivement, du logement dans des centres urbains, dans des dents creuses, des opérations assez compliquées, mais qui ne constituent pas l'essentiel de la demande et l'essentiel du besoin. Alors, je vais développer dans la deuxième partie les solutions que l'on pourrait envisager par rapport à cela. On va marquer une pause musicale et on va reprendre dans quelques instants.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras.
français quand je pense à toi.
I've got a fever. Can you check? And on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever. So can you check?
Tell me what you wanna do right now.
Tout à l'heure, quand je vous parlais de la France moche, c'est assez curieux parce que on considère aujourd'hui toutes les constructions nouvelles comme une sorte de d'atteinte à la nature. Et en parallèle, on a les plus beaux villages de France, on a un tourisme qui se développe, les centres-villes qui sont hyper valorisés, même à mon sens, un peu trop. Donc, on a une attitude très, très ambiguë, même, on peut dire, schizophrène, contradictoire, entre une vélérisation du bâti ancien et un dédain et une sorte de peur obsessionnelle sur le bâti nouveau. Alors, on pourrait poser une question, qu'est-ce qui fait le charme justement de ces villages que on nous envie et qui font l'objet de d'émissions télévisées mais, ou d'articles de presse, ces villages que tout le monde connaît et qui sont réellement de qualité. Ils sont de qualité parce qu'il y a une architecture cohérente quand on voit un village, pareil d'Occitanie, mais c'est pareil dans tous les coins de France, ils ont une qualité qui est liée à leur cohérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ces villages une partie qui va être la partie logement et une partie qui va être la partie autre que le logement, c'est-à-dire bâtiment public, bâtiment où l'on travaille, et tout cela justement est harmonieux. Alors, par exemple, si on prend des bâtiments agricoles, ben, il y a la partie habitation et puis il y a les parties de les dépendances qui vont être même les granges, les étables et des lieux de stockage. Et tout cela va être harmonieux. On retrouvait ça d'ailleurs. On retrouvait ça dans les bâtiments, les maisons de maîtres, dans les châteaux aussi. On avait donc une partie qui était la partie dans laquelle on habitait, mais il y avait des parties communes, les communs. Alors c'était à la fois les écuries, mais c'était des lieux de stockage dans lesquels il y avait aussi des bâtiments qui pouvaient être des bâtiments agricoles, mais qui étaient de la même architecture, de la même qualité architecturale que le bâtiment central. Une même qualité, mais déclinée. Quand on regardait l'ensemble, on avait un ensemble bâti. Alors c'est ce que l'on voit effectivement dans les villages, cette cohérence. Vous n'avez pas ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire la zone pavillonnaire, quelques immeubles des années 60, et puis le village ancien et la zone commerciale faite de bâtiments d'entrepôts qui sont faits de n'importe quoi. Alors, la question c'est, est-ce qu'il s'agit d'un passé révolu ? La question c'est aussi, pourquoi ne fait-on pas cela ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, essentiellement, on en revient à la première partie du propos, il y a des raisons qui sont des raisons réglementaires. Ça veut dire qu'en fin de compte, par exemple, dans le logement est étriqué par des réglementations de constructibilité qui font que si on veut rajouter des éléments de cellier, de dépendance, tout cela à un coût et à le même coût, on peut dire, que si c'était du logement pour l'opérateur, qu'il soit promoteur privé ou public. Et la fiscalité aussi n'est pas du tout incitative. Donc, ce qui fait que quand on veut construire un entrepôt, on ne fera pas comme avant, on ne construira pas un entrepôt avec des matériaux nobles et durables. Il suffit de regarder, on n'a pas besoin de remonter au Moyen-Âge, il suffit de regarder, par exemple, la cartoucherie. Les bâtiments vont être utilisés pour des activités commerciales et culturelles actuellement, ou les entrepôts lainés à Bordeaux, ou les abattoirs de Toulouse qui sont devenus des musées. Bon, c'est des choses qui aujourd'hui ne seront plus possibles parce que les bâtiments que l'on fait sont des bâtiments qui sont moins bien construits, on peut dire. Ils sont de plus mauvaise qualité, ils ne dureront pas dans le temps. Et tout cela vient aussi d'une réglementation et de la fiscalité. Pourquoi un opérateur, un investisseur va-t-il investir dans un bâtiment, sachant que il aura au niveau fiscalité, par exemple, dans une transmission à une génération, il aura à payer beaucoup plus s'il fait un bâtiment qui va être plus cher que s'il fait un bâtiment qui va être moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fiscalité. Je ne suis pas un spécialiste juridique ni de fiscalité, mais en fait, le cœur de l'histoire, il est celui-là, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une fiscalité confiscatoire, on peut avoir une fiscalité, au contraire, positive et incitative pour cela. Il suffit de le faire. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui ou depuis quelque temps, on a fiscalisé les cabanes de jardin. Ce qui est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, on a justement sur tout ce qui fait on peut dire l'intérêt de l'habitat dans ses prolongements est combattu. Donc, si on voulait rendre les villes plus cohérentes, il faudrait au contraire avoir des bâtiments, ces bâtiments de cette France moche, entre guillemets, puisque je reprends le thème des revues, comme je crois que c'est Télérama qui avait sorti la première fois cet article sur la France moche. C'est repris d'une manière régulière par les télévisions, les radios et la presse. C'est pas la peine de pleurer sur cela. Il faut chercher la cause et essayer de trouver des solutions. Et les solutions aujourd'hui, c'est effectivement la fiscalisation, et ça peut être retourné justement en devenant incitatif. Donc on pourrait imaginer, par exemple, que au lieu d'avoir cette césure entre logement et bâtiment public, on ait une plus grande continuité. Alors, on va prendre un exemple qui est lié à la densité. Alors, comme je vous disais, on a donc cette incitation à faire de la densification du logement. Et ce logement ne représente pas, encore une fois, non seulement la majorité des constructions, mais bien moins, en tout cas, que les fameux étalements urbains. Quand on parle d'étalement urbain, on ne parle que du pavillonnaire. On ne parle pas justement de ces zones qui, personne ne demande qu'elles soient étalées. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces réglementations sur les fameuses zones industrielles et commerciales, on introduit l'obligation d'espaces verts que personne n'entretient. On croit être vertueux, enfin, on sait l'urbaniste, celui qui fait la réglementation et le politique, justement, à ne densifier pas. Alors, c'est paradoxal parce que autant la demande des populations, c'est justement de ne pas avoir une promiscuité trop importante avec les voisins. C'est ça, une certaine intimité, que l'on n'ait pas le regard de l'autre côté de la fenêtre. Par contre, quand il s'agit des lieux de travail, bon, au contraire, c'est plus sympathique d'avoir à côté un restaurant, des bistrots, des commerces entre midi et deux, quand on sort, que d'être dans la pampa, dans des bâtiments séparés les uns des autres. Regardez ce qui s'est construit à Toulouse dans les quatre coins de l'agglomération. Eh bien, il s'agit de cela. Mais prenons par exemple un secteur qui a été construit et planifié, qui est la zone de Basso-Cambos. Cette planification n'a pas été toujours exemplaire dans tous les lieux, mais là, elle l'est particulièrement puisqu'il s'agit de bâtiments qui sont de belle qualité et aussi de circulation généreuse, même à mon sens un peu trop, et il n'y a pas grand monde qui passe. Et en tout cas, il y a une très faible densité, et on a aussi des espaces verts publics. Donc on est dans la verdure, on est dans le soleil, mais on a une densité très faible. Donc on pourrait trouver des solutions facilement. C'est quelque chose qui ne demanderait pas des expropriations. On pourrait très facilement faire que les mêmes bâtiments puissent être redensifiés. Alors, comme je vous disais, c'est sans exproprier. Il suffirait de donner des nouveaux droits à construire, à la fois en hauteur et à la fois en surface. Et on pourrait rajouter, et pourquoi pas, on pourrait rajouter aussi du logement et avoir cette mixité dont tout le monde parle tant. On a des terrains urbanisés. Donc on n'a pas besoin de prendre les terrains agricoles dans la fameuse crainte d'aujourd'hui, on n'a pas non plus besoin d'acheter, puisque ces terrains apporteraient de la plus-value au terrain existant qui, je pense, apprécierait d'autant plus. Alors effectivement, il y a des grands parkings. Or, ces parkings, quand on les regarde, ils sont la plupart du temps, ils ne sont pas remplis, puisqu'on a prévu toujours des positions maximales. Donc on pourrait trouver, par contre, des silos de parking collectifs pour densifier. Et retrouver donc des quartiers beaucoup plus urbains, des quartiers animés. Et je pense que à la fois des gens qui travailleraient et aussi des populations qui pourraient se trouver là. Mais on pourrait alors soit densifier avec les mêmes types d'activités, mais aussi avec du logement. Alors ça, c'est une solution de libération du foncier qui pourrait être appliquée sur à peu près toutes les villes françaises, mais sur Toulouse, il suffit de regarder tout autour de la ville pour voir le nombre considérable de, c'est pas des hectares, c'est des kilomètres carrés qui sont déjà urbanisés et donc qui ont les voiries, les réseaux, et donc qui pourraient être redensifiés et sans que ça coûte rien, au contraire, puisqu'en fait, je pense que un grand nombre de gens qui, d'entreprises ou de services qui sont là, pourraient trouver au contraire intérêt à cela, et on aurait en tout cas la possibilité de loger un nombre très important et bien au-delà des besoins de notre ville. Voilà, donc c'était ma proposition. C'est une proposition qui est assez simple, mais il faut dire qu'elle ne correspond pas à l'air du temps qui est en opposition d'un discours sur la mixité, et puis qui, dans la réalité, est un discours technocratique qui découpe, qui isole, qui réglemente, qui surréglemente, et il faudrait, je pense, une révolution des esprits. Les solutions existent, mais il faudrait que les solutions soient trouver dans la simplicité et non pas dans la complexité. Je vous souhaite une bonne semaine.